France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
2 ans et demi passés en prison, puis la publication d'un livre sur un sujet tabou en Turquie, le génocide arménien. Le 26 avril 2015, Sébastien de Courtois recevait Pénard Sélek dans l'émission « Chrétiens d'Orient ».
Bonjour, ce matin au micro de France Culture, j'ai le plaisir de recevoir Pénard Sélek, une sociologue, une intellectuelle turque qui habite en France depuis de longues années, depuis que des accusations injustes vous ont empêché de vivre chez vous, en Turquie, et de poursuivre vos recherches aux marges de la société. Des recherches qui sont devenues autant de combats politiques. Parmi eux, le plus symbolique, quelques jours après la commémoration des 100 ans du génocide arménien, et celui de ces 100 voix, de ces Arméniens de Turquie dont vous retracez l'itinéraire dans un admirable essai « Parce qu'ils sont arméniens » paru chez Liana Levy. Bonjour Pénard Sélek.
Bonjour, bonjour.
Il en faut du courage en tant que citoyenne turque pour s'intéresser à un tel sujet. Alors ma première question est peut-être aussi liée un peu à votre parcours personnel. Comment et pourquoi vous vous êtes emparé de la cause arménienne ?
Je crois que la cause arménienne, c'est une partie de mes engagements. Parce que quelquefois, j'entends que les gens me disent que Pénard Sélek s'intéresse au travail avec les minorités, pour les minorités. Moi, je ne veux jamais travailler pour les minorités ou avec les minorités. Moi, c'est mon problème. C'est pour cela que j'ai choisi la sociologie. Et je veux comprendre les rapports de domination. Et je veux lutter contre les rapports de domination. C'est ça mon intérêt. C'est pour cela que j'ai écrit un livre sur la masculinité, sur le service militaire. Je ne m'intéresse pas seulement avec les minorités, mais quand je veux être une femme heureuse et vivre dans un pays heureux. Et je vois que les dominations, les rapports de domination, comme le nationalisme, etc., le sexisme, sont des obstacles pour ce bonheur. Alors, j'ai commencé à m'intéresser et à comprendre ces dominations pour les changer. Mais quand vous vous intéressez des rapports de domination, après, vous voyez aussi les opprimés. Et je ne dis pas les minorités, je dis les opprimés. Et après, bien sûr, qu'ils vous dévoilent ce qu'ils vivent aussi, parce que en général, c'est eux qui sont sans voix. Alors, j'essaie de donner la voix aux femmes, parce que moi, je suis une femme, et je donnais la voix à moi-même aussi. Mais aussi des différents opprimés que je n'ai pas vécu leur expérience. Et quand je commence à comprendre leur expérience, ça devient un miroir pour moi. Je commence à me regarder aussi parce que je vois les côtés un peu dominants chez moi. Parce que oui, je peux être une femme. Mais je suis turque, j'appartiens à une classe plus aisée, et etc., etc. Être hétérosexuel ou homosexuel aussi, il y a plein de hiérarchies sociales dans cette société. Alors voir les autres expériences dans la société, c'est très important. C'est pour cela et j'ai toujours écrit les articles politiques sur ce que ont vécu les Arméniens, mais aussi pour montrer que comment l'État-nation turc s'est construit à partir de cette expérience.
Et c'est ça qui est intéressant au tout début de votre livre, c'est l'histoire d'un éveil personnel. Alors c'est vous, Pınar Selek, qui vous emparez de ce sujet depuis de longues années. Hein. C'est pas du tout une cause récente. Hein. Vous avez écrit depuis les années 90 des articles sur cette cause des Arméniens de Turquie, c'est-à-dire cette minorité arménienne qui correspond peut-être à 80 000 personnes à l'échelle de la Turquie contemporaine. Par votre regard, c'est aussi le regard d'une génération. Votre génération. Vous êtes né au tout début des années 70 et vous allez contre la culture dominante de votre pays qui s'est exprimée de manière abominable par le coup d'État de 1980 où les Arméniens, donc cette toute petite communauté, ces héritiers de donc des rescapés, disons, de 1915, sont encore pointés du doigt. Et vos mots sont très très durs. À la télévision, d'après vos témoignages, on les accuse encore.
Moi, je partais à une génération après le coup d'État 80. C'était un coup d'État comme un peu celui de Chili. Et très dur. 1 million de personnes sont passées des interrogations. C'était des centaines de millions de milliers de personnes sont partis en exil, plein de morts. Et à cette époque, il y avait déjà l'hostilité contre les Arméniens, mais c'est devenu plus grave. Et il y avait les communistes et les Arméniens qu'on parlait toujours, le dictateur.
Et moi, vous le dites avec humour d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans les mêmes phrases, oui, dans des slogans politiques, mais ça n'a aucun sens.
C'est une insulte d'être communiste ou d'être arménien. Et moi, je dis que ça doit être bien d'être arménien et d'être communiste à cette époque. Mais après, quand j'ai vraiment eu, j'ai vraiment appris qu'est-ce que ça veut dire le génocide? Et quand j'ai pu entendre et lire les vrais témoignages un peu, et j'ai commencé à m'interroger. Parce que j'ai dit que depuis mon enfance, j'avais vécu des traces, mais je n'avais pas compris. Après, j'ai commencé à me questionner pourquoi j'ai pas réfléchi, pourquoi je n'avais pas compris. Même si j'appartenais à une famille alternatif, contestataire de l'époque. Mon père était en prison 5 ans. Ma mère était, elle avait des amis arméniens. Elle parlait entre elles des violences, etc. Mais je ne comprenais pas. Parce que même si je vous dis, même si j'appartenais à une milieu alternatif, ce n'était pas très alternatif non plus, parce que ce mouvement aussi appartenait à une identité dominante et les causes arméniennes n'étaient pas visibles dans ces mouvements.
Alors qu'on est dans la Turquie des années 80, à Istanbul, où vous avez grandi, vous dites d'ailleurs dans votre essai, dont je rappelle le titre, parce qu'ils sont arméniens, chez Liana Levy, vous dites que la mère de mon grand-père venait d'une famille grecque convertie à l'islam.
Ouais.
Et de l'autre côté, ce sont des Tcherkesses, des tribus de Tcherkesses musulmanes qui se sont réfugiées dans l'Empire ottoman. C'est merveilleux, parce que vous êtes vous-même le syncrétisme de cet héritage turco-ottoman qui va puiser à toutes les sources. Dans les années 80, comment on fait pour s'intéresser aux Arméniens? Il n'y a pas de livres, il n'y a pas d'informations.
Pas du tout. Et moi, c'était plutôt à partir de 90, j'ai commencé à vraiment comprendre. Avant, c'était des relations personnelles grâce à mes parents. Écouter les témoignages. Oui, et c'était écouter les témoignages, pas lire quelque chose. Mais à partir de 90, et j'ai commencé, je parlais un peu français, et j'ai commencé à m'intéresser plus sur ce sujet. Et en Turquie, c'est le pionnier de cette cause, c'était les maisons d'édition Balgay. Qui est très important, qui a publié les premiers livres sur ces expériences.
À une époque où c'était interdit encore d'en parler, où c'était un sujet tabou.
C'était un sujet tabou. Et c'était vraiment, cette maison d'édition, c'était vraiment un pionnier. Il a commencé à traduire des romans. Alors, des romans, ça passe plus facilement parce que il ne dit pas génocide, mais il raconte le génocide d'une autre façon. Et après, il a publié Yves Ternon, etc., etc. Et c'était très courageux. Et après, la maison d'édition Arras, arménien, et Agos qui l'a suivi. Et moi, dans ce livre, je raconte mon itinéraire, comment de petit à petit j'ai commencé à voir, à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi. Parce que ne pas comprendre ce qui se passe autour de toi, c'est aussi ta position dominante. Alors, tu dois, quand tu vois qu'il y a quelque chose vraiment, tu te transformes. Tu n'es pas comme avant. C'est très important. Alors, je fais tout ça un peu pour moi-même aussi, pour me débarrasser de ce qu'on m'a inscrit à mon corps, à mon cerveau. Voilà.
Je rappelle que vous êtes sur France Culture. Nous sommes ce matin dans Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois avec Penard Selec, autour d'un essai qui est en librairie actuellement et qu'il faut absolument se procurer parce qu'ils sont arméniens, aux éditions Liana Levy. Alors c'est une histoire de rencontre aussi. Et
oui.
Il y a deux personnages, je me permets d'isoler. Tout d'abord, c'est Nishan Amca.
Oui.
Alors Amca en turc veut dire l'oncle.
Oncle, ouais.
Donc c'est cet ami arménien qui vous dit, qui vous explique sa solitude.
Oui, c'est grâce à des rencontres depuis mon enfance, comme je vous ai dit, dans la pharmacie, j'avais des rencontres. Ma mère était pharmacienne, alors elle avait plein d'amis, et j'ai commencé à écouter ce qui se passait, et surtout c'était Nishan qui m'a qui m'a transformé, je peux dire. Nishan, il est oncle Nishan, disons. Il est 81. Et moi, quand j'étais en prison, en 1998, à cause de mes recherches, et j'avais deux fois, trois fois par semaine, des lettres, mais sans signature. Il dit qu'un vieil ami.
Il vous écrivait, vous étiez en prison et vous receviez les lettres de cet inconnu.
Oui, et il me parlait toujours de Christ, comment lui, il a subi des violences, comment il a résisté. Il me parlait de la patience de Christ, etc. Mais c'est un peu bizarre, il me parlait toujours la même chose. 2 ans et demi, j'ai resté en prison. Et j'avais ces lettres 3 fois par semaine. Et il me parlait toujours du même thème, mais jamais... Et une lettre ne ressemblait pas à une autre. C'était vraiment étonnant. Et moi, j'étais devenue dépendante à ces lettres. Et quand je suis sortie de la prison, il m'a trouvée. Alors, je le voyais toujours. Et on travaillait dans les mêmes quartiers aussi. Alors, on est devenus vraiment amis. Mais un matin, quand on s'est rencontrés, on a voulu boire un café. Tout d'un coup, il s'est arrêté. Il m'a dit que Pnar, peut-être, c'est pas bien de marcher dans les rues avec moi. J'ai dit pourquoi? Parce que je suis arménien. Ils peuvent créer une histoire que c'est moi qui te dirige.
Nous sommes à la fin des années 90.
Oui. Et c'était 2000.
2000.
Et après, il est parti. Il est mort. Pas longtemps après. Et ça m'a vraiment transformée. Et j'ai dit, il faut que je comprenne bien cette histoire.
Être arménien en Turquie, écrivez-vous, c'était déambuler sans révolte sur des avenues baptisées des noms des gouvernants responsables du génocide. C'était prononcer le nom de l'assassin de son grand-père ou de sa grand-mère en s'échangeant une adresse. C'était hésiter à parler à voix haute dans les rues, faire la sourde oreille aux insultes, se dissimuler pour exister. C'est dur.
Et pour moi aussi, c'était très dur d'écrire ces phrases. Mais je l'ai écrit en 2014. Et tout d'un coup, j'ai senti le besoin, parce qu'il y avait, après Nishan, j'avais d'autres rencontres. Comme j'ai ouvert les yeux, vraiment ouvert les yeux, j'ai commencé à voir. Et après, j'étais dans les luttes aussi avec Agos, avec Ranting, qui a créé un changement d'échelle dans l'espace militant. Et tout ça, ça m'a une accumulation énorme. Et j'ai dit, il faut que j'écrive. Parce que si je n'écrivais pas ces phrases, je ne pourrais pas continuer à vivre, je crois. Alors j'ai écrit, mais c'était dur.
une catharsis, une forme de... Vous aviez besoin de mettre...
Non, un témoignage. Non, j'ai dit qu'il faut que je parle à haute voix. Il faut que je te dise. Il faut que ça... Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Tout d'un coup, vous pouvez mourir. Il faut que vous le notez. Il faut que vous le témoignez. Et comme moi, je suis déjà... À cause de mon affaire, à cause d'autres affaires, je suis toujours, mon père, il est avocat, mon grand-père, il était avocat. Je suis toujours dans les luttes de justice. Et je vois très bien les luttes de justice des Arméniennes. Et alors, je dis qu'il faut que mon témoignage reste quelque part.
De 1960 à 1980, nombre d'entre eux, les Arméniens, figuraient dans les rangs des principaux mouvements de lutte sociale en Turquie. Figuré est le bon terme, car les militants arméniens y restaient très discrets. Je lus, j'interrogeais des gens, tout le monde racontait la même histoire, ils étaient invisibles. Alors vous avez évoqué le nom d'un second personnage qui a beaucoup compté dans votre vie.
Hrant Dink.
Voilà, Hrant Dink, que nous connaissons bien en France, enfin je l'espère, qui a été assassiné.
En 2007
à Istanbul, dont nous pouvons associer son nom aujourd'hui à cet exercice de souvenirs et de mémoire. Rappelons qui était Hrant Dink en quelques mots pour nos auditeurs. Un Arménien d'Anatolie.
Un orphelin qui a grandi dans une orphelinat protestant. Et après qui s'est engagé dans les mouvements de gauche parce qu'il était révolté. Mais il a changé son nom, son nom c'est Hrant, il devient Frat pour ne pas mettre en danger sa communauté arménienne et après pour ne pas mettre en danger, parce qu'il est arménien, son organisation. Parce qu'on disait que toujours c'est les Arméniens qui dirigent tout, etc. Et les Arméniens devaient être invisibles en Turquie. Et après toute cette expérience, mais il voit bien que son organisation de gauche extrême ou à l'époque révolutionnaire ne voit pas les Arméniens. Il parle une fois, mais il ne voit pas cette cause. Alors il porte dans son cœur toujours une douleur affreuse, quelque chose de pénible, mais aussi plein de contradictions sur sa lutte. Et après un moment, quand dans les années 90, 95 plutôt, quand l'hostilité arménienne devient vraiment insupportable, il se trouve avec un groupe d'amis. Ils disent qu'il faut avoir un journal pour lutter contre tout ça et pour donner la voix aux Arméniens.
Donc c'est la création de ce journal qui s'appelle Agos, qui veut dire le sillon en français.
Le sillon. Et je crois que c'est un sillon pour la Turquie aussi. C'est un sillon pour les Arméniens qui vivent en Turquie, mais c'était un sillon pour moi aussi, pour ma génération aussi, pour plein de personnes de ma génération aussi. Et il avait des tactiques d'adaptation parce qu'il savait bien qu'il était dans un pays très nationaliste où il y avait une répression meurtrière. Alors il n'a pas dit, par exemple, il n'a pas beaucoup utilisé le mot génocide, mais il a posé une question. Où sommes-nous? C'était très important parce qu'il parlait des chrétiens convertis en islam, des Arméniens convertis en islam à l'époque.
Voilà, qui est un autre grand sujet.
Et qui mettait en question l'identité turque dominante, parce que qui sont les Turcs? Où sommes-nous? Ça veut dire qui sont les Turcs. Mais aussi, qui mettait en question l'identité arménienne, parce que quand vous parlez de l'identité arménienne, c'est chrétien. Et comme c'est une minorité religieuse et c'est le patriarche qui présente les Arméniens en Turquie, mais s'il y a des Arméniens musulmans depuis un siècle, alors deux générations ou trois générations, et alors comment on va faire maintenant? Alors c'est lui qui a changé ça et je crois que ce qu'il a fait, aussi, il a créé un mouvement laïque, parce que c'était toujours le patriarche qui parlait au nom des Arméniens. Comme c'était une minorité religieuse, c'était le représentant officiel.
Il faut préciser qu'il existe un patriarcat des Arméniens grégoriens à Istanbul,
oui,
qui existe depuis le 15e siècle, sans me tromper, et qui a représenté traditionnellement la voix des Arméniens de Turquie.
Oui.
Et ce que vous nous dites, en fait, c'est que Hrant Dink a un petit peu laïcisé ce discours.
C'est tout à fait ça. Il a créé un mouvement laïque. Ce mouvement, maintenant, il a dépassé les limites de Agos. Maintenant, les jeunes Arméniens commencent à s'organiser. Et il y a plusieurs groupes qui sont très mobilisés autour de Agos, mais qui n'ont pas une hiérarchie entre eux et qui sont très dynamiques et incontrôlables.
Il faut dire qu'Agos est écrit en turc et en arménien. C'est-à-dire
c'est bilingue.
Un hebdomadaire bilingue.
Et il y a des écrivains turcs et des journalistes turcs et des journalistes arméniens ou kurdes ou d'autres. Mais c'est bilingue, oui.
Alors parlons maintenant, il nous reste quelques minutes ensemble, de l'avenir. Comment vous voyez cette parole différente en Turquie? Est-ce qu'on peut espérer que les choses se débloquent un peu plus au niveau politique?
Dans mon livre, je parle de l'espoir ou des désespoirs, et je parle de Gramsci qui dit qu'il faut lier le désespoir de la conscience et l'espoir de la volonté. Je crois que je suis entre les deux, parce que j'ai la conscience et j'ai la volonté. Alors moi, je pense que 24 avril, comme plein de gens, il n'est pas un jour de commémoration, de souffrance. Ça doit être un jour de revendication. Et il faut vraiment réfléchir. Comme c'est un génocide, c'est un crime fait contre l'humanité, pas seulement contre les Arméniens. Alors, ça veut dire que tout le monde a une responsabilité de penser sur la justice. Comment on peut... Bien sûr, les réparations de génocide, c'est pas facile, mais il faut réfléchir, il faut discuter que ça. Parce que 100 ans après le génocide, si on sait pas bien, si on n'a pas concrétisé les revendications de justice, de réparation, c'est notre faute.
J'ai l'impression que la société civile turque avance un petit peu dans cette direction, plus vite que le monde politique en tout cas.
Oui, c'est grâce à Agos et grâce à la transformation de l'espace militant en Turquie. C'est pour cela que j'ai l'espoir. Et il y a des discussions, il y a des actions très importantes, mais il faut un appui international aussi. Parce que le problème, c'est très complexe. Il faut la solidarité de partout.
Est-ce que vous allez continuer à écrire sur cette thématique?
Je vais continuer à écrire à toutes les thématiques qui me touchent, qui touchent au monde. Voilà, je vais continuer à écrire et à essayer de faire des choses aussi.
Je rappelle, Pınar Selek, le titre de votre livre, le livre qui nous réunit ce matin, Parce qu'ils sont arméniens. Un livre que l'on peut trouver, bien entendu, dans toutes les librairies. C'est publié chez Liana Levy. Pınar Selek, je vous remercie infiniment.
Moi aussi.
Et votre voix compte et j'espère qu'elle va continuer à compter. Voilà.
C'est bien de donner la voix à tout le monde. Merci.
C'était Chrétien d'Orient. Sébastien de Courtois recevait Pınar Selek le 26 avril 2015. Réalisation Dany Journaud.